Bonjour, aujourd'hui Guy de Maupassant. J'écris parce que je comprends et je souffre de tout ce qui est, parce que je le connais trop. Guy de Maupassant. Deux mille ans d'histoire. Il n'aura fallu que 10 ans pour que l'œuvre de Maupassant devienne une des plus populaires et des plus importantes du XIXe siècle. 7 romans, un recueil de poèmes et surtout près de 300 contes et nouvelles, écrits entre 1880 et 1890, comme si Maupassant avait su qu'il mourrait jeune, victime de la même maladie qui avait emporté Baudelaire 26 ans avant lui, la syphilis. Enfermé en 1892 à la clinique du docteur Blanche à Passy, le corps entravé par une camisole de force, l'auteur de Boule de Suif, de Bel Ami et du Horla avait cessé d'écrire. Mais on dit que dans ses délires, il se souvenait des premiers vers que lui avait inspirés à 15 ans une femme rencontrée sur les galets de la plage d'Étretat.
J'ai 15 ans.
Mais bon anniversaire, monsieur. Monsieur ?
De Maupassant. Guy de Maupassant.
Bonsoir, monsieur Courbet.
Bonsoir, monsieur Courbet.
J'appelais les grands bois témoins de mes amours.
Les vallons et les flots, et je courais toujours.
La mer, en rugissant, bondissait sur la plage.
Bondissait sur la plage. Mais ses lourds grondements et les bruits de l'orage retentissaient moins haut que les voix de mon cœur. Rien ne peut contenir cet immense bonheur.
Nadine Satia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une passionnante biographie de Maupassant publiée chez Flammarion, Le destin tragique d'un écrivain dont l'œuvre est largement inspirée, vous le rappelez, par la Normandie où il est né en 1850, où il a passé également son enfance. Étretat, dites-vous, c'était pour lui le paradis.
Oui, ça a été surtout le paradis pour lui entre 10 et 13 ans, c'est-à-dire en fait après la séparation de ses parents et avant qu'il ne soit enfermé dans une institution ecclésiastique pour poursuivre des études secondaires. C'était la liberté, c'était la relation exclusive avec la mère qui s'est occupée de sa première éducation.
Qui le couve hein, et qui l'initie, en tout cas qui lui fait aimer la littérature.
Ah oui, ça c'est certain. Elle avait été élevée avec Flaubert, qui avait exactement le même âge qu'elle, et avec son frère aîné à elle, Alfred Le Poitevin, qui a été, dit Flaubert, le seul homme que j'ai jamais aimé. Cela jouait du théâtre à 10 ans sur le billard du père Flaubert à l'hôpital de Rouen. Le frère Alfred a initié sa sœur qui pouvait lire Shakespeare en anglais. Imaginez ça, ce n'était pas si courant à l'époque.
Sa sœur, c'est-à-dire la mère de
C'est-à-dire la mère de
Guy,
Maupassant, oui. Qu'il ne faut surtout pas imaginer comme une bourgeoise. À 20 ans, Laure de Maupassant a monté à cheval, fumait des cigarettes, lisait Shakespeare dans le texte et passait pour une demoiselle qui avait ses nerfs. Mmh. C'était déjà une fille de caractère qui avait été virilisée par cette jeunesse avec deux garçons passionnés de poésie romantique, de théâtre et qui en garderait toujours une grande droiture et une haine du bourgeois absolu.
Et qui va transmettre sa passion à son fils. Il y a quelqu'un d'autre qui joue un rôle, vous l'avez dit, Nadine Satia, c'est Flaubert. On dit même d'ailleurs que Flaubert était le père de Maupassant.
Oui, ça, je pense que maintenant on peut éliminer complètement cette rumeur qui a été lancée plutôt par les journalistes que par les historiens. Les coïncidences de dates sont improbables et de surcroît, il est certain que Madame de Maupassant était amoureuse de son mari quand elle l'a épousé. Hélas, ça n'a pas duré très longtemps, ce qui a entraîné un grand scepticisme chez Guy de Maupassant envers les relations entre hommes et femmes. De surcroît, quand elle était très vieille, après la mort de Guy de Maupassant, elle a confié à un journaliste, écoutez, ce n'est pas maintenant que j'ai un pied dans la tombe que je vais laisser courir cette rumeur. Non, Elle vivait avec lui comme un frère, en fait, dans sa jeunesse.
Alors, autre chose qui a marqué le jeune Maupassant, c'est la guerre de 1870. Et très impressionné, dites-vous, par le désastre, la déroute de l'armée française à cette époque-là. On retrouve cette guerre, d'ailleurs, dans quelques nouvelles, également dans Boule de Suif. Et puis alors, c'est après la guerre que l'influence de Flaubert se fait sentir, qui va l'initier à la poésie. Parce que le premier genre dans lequel Maupassant espère réussir, comme tous les écrivains du 19e siècle, d'ailleurs à l'époque où le roman est considéré encore un peu comme un genre secondaire, c'est la poésie.
Mais tout jeune, à 12 ans, 13 ans, évidemment, il écrivait des poèmes où il était le jeune héros avec son bras vainqueur qui emmenait sa belle sur les rochers, etc. C'était un peu ridicule, à vrai dire, vu d'ici. Mais pour l'époque, c'était parfaitement normal. Et d'ailleurs, une de ses premières désillusions amoureuses, c'est quand il entendra une des jeunes filles qui courtisait lire en se moquant des poésies qu'il avait écrites pour elle.
Et les poésies... C'est ça qui l'a rendu misogyne un peu.
Mais je pense que le comportement de son père envers sa mère a été aussi décisif. La poésie, alors le premier grand poème évidemment qui va être connu, c'est Au bord de l'eau, 1876, qui va faire connaître l'écrivain cru réaliste qu'il deviendra par la suite.
Je ne l'entendais pas tant je la regardais. Par sa robe entr'ouverte au loin, je me perdais. Devinant les dessous et brûlée d'ardeur folle, elle se débattait, mais je trouvais ses lèvres. Ce fut un baiser long comme une éternité, qui tendit nos deux corps dans l'immobilité. Elle se renversa râlant sous ma caresse. La 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 la. Sa poitrine oppressée et dure de tendresse haletait fortement avec de longs sanglots. Sa joue était brûlante et ses yeux demi-clos. Et nos bouches et nos sens, nos soupirs se mêlèrent.
Et c'est Pierre Perret chantant un poème de Maupassant écrit en 1876, vous le citiez Nadine Satia, c'est Au bord de l'eau. Vous me dites qu'en écoutant cette chanson de Perret, ça fait une très jolie chanson d'amour, c'est certes ce sont les paroles de Maupassant, mais c'est un texte qui est vraiment où il n'est question que de sexe en fait.
Mais bien sûr, je suis surprise parce que cette douceur, le poème est très long il faut dire, donc il change d'atmosphère au fil du temps, mais c'est infiniment plus dru que ne laisse supposer le petit accompagnement de guitare, etc. C'est ça qui a frappé les contemporains. Curieusement, voilà un texte qui est apparu dans une revue parnassienne, donc vous voyez, marmoréenne, etc., qui n'avait rien de naturaliste, mais bien tout de suite, Catulle-Mendès a vu que ça allait frapper le public, que ça allait servir de remorqueur pour cette nouvelle revue qu'il avait lancée.
1876, hein, c'est un tournant, vous le dites. Alors, vraiment, effectivement, pour Maupassant, l'amour, c'est d'abord le sexe, et les femmes, c'est d'abord des prostituées.
Mais oui, imaginez ce jeune homme plein de vigueur, un poulain échappé, disait sa mère en parlant de lui, avec 13-14 ans à Étretat, qui se retrouve enfermé dans un bureau tout le jour comme gratte-papier, et qui n'a qu'une envie, c'est d'aller canoter sur la Seine et d'aller lutiner les grenouilles qui nagent en ces parages. Voilà, c'est un personnage qui est mu par une férocité d'instinct que peut-être lui-même ne comprend pas. Et c'est ce qui ressort dans ce poème.
Un animalcule spermatique, disait Goncourt, hein, c'est le titre d'un de vos chapitres. Et alors, il y a une lettre de Flaubert à Tourguenieff en 77, Flaubert qui parle de son protégé Maupassant et qui écrit « Guy m'a écrit qu'en 3 jours il avait tiré 19 coups, c'est beau mais j'ai peur qu'il finisse par s'en aller en sperme ».
Mais oui, bien sûr, parce que Maupassant fréquente, après la guerre de 70, Maupassant retrouve Flaubert, qui est stupéfait de voir dans le Maupassant de 20 ans, 22 ans, le portrait craché de son ami de jeunesse, c'est-à-dire de l'oncle de Maupassant, Alfred, le frère de sa mère. Et là, il se met à fréquenter les dimanches de la rue Murillo, où sont Tourguenieff, Goncourt, Zola, et stupéfie ces messieurs avec ses histoires de filles, bien sûr. Il ne dit rien de la littérature. pour la littérature, il écoute. Mais il raconte ses histoires de week-end, en quelque sorte. Tout ça ravive l'ancienne vigueur de ces messieurs qui sont quand même un petit peu étonnés par le récit de ses exploits.
Week-end avec des filles plutôt faciles, hein, dans les guinguettes du bord de la Seine ou de la Marne, où il fait du canot. Il attache une grande importance à ses biceps, Nadine Satya.
Oui, il a besoin de se dépenser, un besoin atroce de se dépenser. Il fait des lieues et des lieues sur la Seine en ramant. Personne ne peut le suivre. Parfois, il prévoit que ça va être trop long pour ses camarades, donc il en emmène un de rechange parce qu'il sait qu'on n'ira pas jusqu'au bout de l'excursion qui était prévue.
Peut-être pour échapper à la morosité de sa vie, parce qu'il écrit des poèmes, certes, mais enfin, ça ne lui rapporte rien du tout. Et son vrai travail, celui pour lequel il est rémunéré, c'est un travail de rond de cuir. Il est fonctionnaire. On imagine mal Maupassant fonctionnaire, mais il l'a fait pendant des années, ça, ce travail de fonctionnaire.
Oui, et il l'a fait avec le plus d'application possible, parce que c'était sa seule ressource matérielle. Le père était... À l'origine, les deux familles étaient également bourgeoises, mais la famille de son père a été ruinée, et donc l'argent qui lui était promis s'est petit à petit amenuisé. Il n'avait aucune perspective de gagner de l'argent, et notamment pas avec ses écrits à l'époque.
Donc il est fonctionnaire, c'est un travail dont il se moque assez.
Au ministère, ton travail, tu n'en as pas bientôt assez?
Ah, m'en parle pas, c'est insupportable, mon chef de bureau est un salaud. Tiens, il m'empêche d'écrire mes poèmes. Hier encore, il est entré dans mon bureau, et il me dit... Monsieur Maupassant, veuillez être payé par l'État au service de l'État.
Mais monsieur, je fais mon travail.
Oh, Nounou, qu'est-ce que vous faites là?
Je j'écris.
Non, non, pas les lettres de service. Je vous interdis de faire autre chose que...
de l'administration.
Voilà.
Qu'est-ce que tu écrivais?
Une nouvelle, mais longue, sur la guerre. Flaubert m'a promis de m'aider à la faire publier. Oui. Ça s'appellera peut-être Boule de Suif.
Et Flaubert mourra très peu de temps après cette nouvelle par laquelle vraiment Nadine Satya, Maupassant, devient célèbre.
Absolument, c'est la trouée dans sa carrière. Ceci dit, on répète souvent que Flaubert, c'est vrai qu'il a encouragé Maupassant, qu'il a un crayon à la main, corrigé certains de ses poèmes, de ses petites pièces, etc. Mais Flaubert n'a rien, n'a absolument rien mis de lui-même dans l'écriture de Boule de Suif. Il l'a lu sur épreuve. Il l'a découverte sur épreuve. Donc l'image d'un on a répété souvent à l'époque que peut-être, en fait, ce n'était pas Maupassant qui l'avait écrite, que c'était Flaubert lui-même. Absolument pas, il faut tordre le cou à cette légende. Oui, parce que d'un seul coup, vous savez, il y a une lecture à haute voix des différentes nouvelles qui composaient le recueil. Et lorsque Maupassant a lu son texte devant ses camarades, devant Séard, Huysmans, Alexis, ça a été une stupeur absolue parce que ça dépassait son texte. Boule de Suif dépassait de 100 coudées les textes de ses camarades, y compris le texte de Zola.
Et puis ça sort de ce petit cercle d'écrivains parce que ça a un succès énorme immédiatement. Alors il abandonne son travail de fonctionnaire qu'il avait fait au ministère de la Marine, à l'Éducation nationale, tout de suite. Il ne va plus vivre que de sa plume. Mais comment expliquer justement ce succès populaire? On a beaucoup parlé du souci du détail que lui avait appris Flaubert. Flaubert qui parlait du détail vrai. C'est vrai qu'on le retrouve, ce souci des détails, dans toutes les œuvres, dans toute l'œuvre de Maupassant.
Certes, moi j'ai l'impression que ce qui importe surtout chez Maupassant, c'est un souci de justesse. Et ça, il l'a bu autant de la bouche de Flaubert que de la bouche de sa mère. Parce que sa mère était une personne extrêmement droite, qui regardait les choses en face, qui ne cédait à aucune convention. Et en fait, le souci de justesse oblige à une certaine justesse d'expression, en quelque sorte. Donc c'est lié chez lui.
Il y a aussi l'écriture courte. D'abord, ce sont des nouvelles et des contes. C'est par là. Il y a eu ses romans. Il y en a eu 7, je crois. Ouais. Mais ce sont des nouvelles. C'est même des phrases courte comme le journaliste qu'il a été aussi, on ne le sait pas souvent, Nadine Satya.
Mais bien sûr, au lendemain de la mort de Flaubert, il faut voir aussi cette mort de Flaubert comme vraiment une énorme cassure dans la vie de Maupassant lui-même. C'est paradoxal, au moment où il accède finalement à cette vie littéraire qu'il a fréquentée par la bande pendant 10 ans, il perd celui qui était son père en littérature, qui était Flaubert. Et il est bien obligé de céder aux tentations journalistiques qu'on lui apporte sur un plateau. Le Gaulois, le Gil Blas vont lui demander, et le payer le double, le triple de ce qu'il reçoit comme fonctionnaire, vont lui demander de participer, de faire la première page des journaux, puisque les nouvelles de Maupassant étaient publiées, les nouvelles et contes étaient publiées en première page. comme titre d'appel dans ces deux périodiques.
Et Boule de Suif, donc, dans Les Soirées de Médan. Alors, il faut rappeler qu'il s'agissait d'un recueil collectif qui était un peu le manifeste des naturalistes et dans lequel, justement, il a publié Boule de Suif, mais on retrouvait également Zola, Huysmans, au point qu'on a dit de Maupassant qu'il était comme eux, un écrivain naturaliste.
Oui, en fait, ce n'est pas le manifeste du naturalisme. Zola s'est déclaré naturaliste depuis longtemps déjà. C'est pur opportunisme. C'est le livre des jeunes, n'est-ce pas ? C'est une initiative qui a été probablement impulsée par Zola pour donner de la publicité à ces jeunes gens qui l'entouraient. C'est lui qui a écrit la nouvelle d'entrée du recueil et il pensait comme ça leur ouvrir la porte des journaux et de la critique. Mais le naturalisme, en fait, Maupassant s'y est rattaché, en l'occurrence avec Boule de Suif, par opportunisme. De la même manière qu'il avait publié Au bord de l'eau dans une revue parnassienne, malarméenne, vous voyez. De la même manière, là, il y a un coup d'épaule qui est donné par Zola à toute la génération montante.
Alors, écrivain, sinon naturaliste, du moins réaliste, et un réalisme qui ne plaisait pas à tout le monde.
Soudain, Bellamy aperçut Madame de Marelle. Et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres.
Fanny, ton Maupassant est un jean-foutre. C'est le roi de la débauche et de la vulgarité.
Permettez-moi d'avoir un autre avis, père. C'est moderne. Ces personnages sont dans la réalité. Ils agissent mus par leurs ambitions, leurs passions.
Eh bien, justement, ça me déplaît. J'attends autre chose de la littérature que la réalité.
Vous avez la nostalgie d'une époque révolue.
Mais dis donc, Twain, pourquoi tu te bois point la mer, puisque t'as toujours soif?
Réfléchis donc, mon gendre. La mer, elle est salée. Et puis, pour la mettre en bouteille, il faudrait que je me baisse. Et que mon ventre, regarde donc, il est pas pliable.
Vous êtes y plus, ma fille, Madame Leblon, hein?
Pareil, vous en avez point trouvé de meilleure d'ici à Rouen.
Ah ça, elle est fameuse, votre fine.
Elle chauffe la tripe et elle nettoie la tête.
Et c'était un extrait de Toine, une nouvelle de Maupassant, extrêmement drôle, comme certaines nouvelles de Maupassant. Ce qu'il y a de curieux, Nadine Satia, c'est que malgré cet humour qu'il y a parfois dans l'œuvre de Maupassant, c'est un homme qui est fondamentalement pessimiste.
Mais bien sûr, en fait, Toine est une farce. Mais une farce qui, comme tous les textes de Maupassant, se termine dans une émotion proche des larmes. Car enfin, peut-être est-ce traité un peu trop comme une farce dans ce film, d'ailleurs. Il y a un personnage de docteur qui vient, qui met un recul, etc. Mais en vérité, ces personnages sont émus quand ces poussins éclosent sous les bras du gros homme immobilisé dans son lit par la crise d'apoplexie qui vient de son ivrognerie. Le pessimisme chez Maupassant s'accompagne toujours d'une sorte de tendresse pour la créature, d'indulgence pour la condition de la créature. Et je ne dis pas créature, je dis créature à dessein. Je ne dis pas créature pour parler des grenouilles des bords de Seine. Ça inclut aussi les animaux. Voyez, par exemple, contrairement à Zola, quand Maupassant descend dans la mine, il a autant de pitié pour les hommes que pour les chevaux, et peut-être même plus pour les chevaux qui ne remontent pas à la lumière du jour. Et ça, c'est un pessimisme qui est teinté en même temps d'une telle tendresse qui porte en lui-même en quelque sorte son remède, vous voyez.
Mais en même temps, c'est un sauvage, il n'aime pas le monde, il n'aime pas les mondanités, il travaillait comme un forçat, certes, mais vraiment, c'est un homme qui, par exemple, qui refusait, on évoquait ses liaisons féminines, elles ne se sont jamais concrétisées par un mariage, il n'était pas question pour Maupassant de se marier, il est également très anticlérical.
Oui, il y a deux périodes. Il y a la période où Maupassant commence à jouir de son succès, entre 1880 et 1885, Bellamy, où là, vraiment, il est heureux de pouvoir fréquenter les salles de rédaction, de s'afficher avec des personnes connues, d'aller, bon, de vivre la vie que vivaient les journalistes de son époque. Et puis, petit à petit, à la fréquentation du grand monde, dirons-nous, parce que toutes ces dames voulaient avoir leur écrivain dans leur salon. Là, à la fréquentation de ces bureaux d'esprit, comme on disait à l'époque, il serait dit, la maladie y est pour quelque chose, il ne veut pas en être, il se rend compte de la fausseté, de l'hypocrisie de ces personnes de la haute société que peut-être il imaginait plus noble d'esprit aussi.
Et il refuse, il paraît qu'on voulait lui offrir une décoration, il refuse. Et il surveille de très près ses droits d'auteur, en revanche. Il n'aime pas trop parler de son œuvre, mais il aime bien qu'on en parle et il est très très attentif aux droits d'auteur qu'il peut en toucher.
Oui, alors on a mis ça sur le compte de du fait qu'il était normand. Moi je veux bien, mais en vérité tout le monde faisait ça. Tout le monde soupesait les opportunités, les concurrences et tout le monde essayait de vivre de sa plume. Tout simplement, il n'avait pas de fortune personnelle. Donc moi je n'y vois pas d'inconvénient. C'est vrai que certains calculs, surtout vers la fin de sa vie, ont un petit peu quelque chose de pathologique. Vous voyez, une ligne, un quart multiplié par 342 pour gagner 10 francs de plus, bon, ça peut sembler un peu mesquin.
Excusez-moi, monsieur de Maupassant, on parle de vous pour la Légion d'honneur à Paris.
La Légion d'honneur, moi ? Qu'on me l'offre pas, je la refuserai. Je serai jamais décoré, moi, jamais. Jamais candidat à aucune académie. Ni jamais marié non plus, d'ailleurs.
Vous êtes aussi contre le mariage ?
Absolument. Situation tellement anormale. Pour moi, contenté d'une seule femme toute ma vie. C'est aussi peu naturel que je ne vivais que de salade.
Est-ce que vous nous permettez une photo ?
Rangez-moi ça, s'il vous plaît.
Mais pourquoi ?
Parce que je ne veux pas. J'ai pour règle absolue de ne jamais laisser publier mon portrait. C'est mon œuvre qui appartient au public, pas ma figure. Détruisez votre épreuve.
C'est vrai qu'il n'aimait pas les photos ni les journalistes. Lui qui l'avait été, Nadine Satir, c'est curieux.
Bon, ce dialogue est quand même, pardon, un peu caricatural. Il tenait ce dégoût des honneurs, des hochets, de Flaubert, bien sûr. Les honneurs des honneurs, disait Flaubert, à qui probablement il avait promis qu'il ne serait jamais journaliste. Il vivait le fait même du journalisme comme une forme de prostitution. Après tout, Bel Ami, c'est le roman de l'homme-fille, de l'écrivain, de l'homme qui se prostitue dans le journalisme.
Alors, solitaire aussi, finalement, il ne trouve de compagnie qu'auprès de son valet de chambre qui a joué un grand rôle, François Tassard, et qui a été le témoin quand même de la dégradation de la santé de Maupassant, atteint par la syphilis, qui était vraiment le sida de l'époque et qui l'avait touché très tôt. En fait, dans votre livre, on a l'impression que la maladie est omniprésente dès qu'il a commencé à écrire.
Mais même avant, pour ce conseil, la syphilis a été diagnostiquée quand il avait 27 ans. Il est très possible qu'il ait eu d'autres maladies sexuellement transmissibles avant, qui se sont surajoutées. Et il a passé toute sa vie, en fait, d'abord dans des migraines, dans des douleurs ophtalmiques, des problèmes cardiaques. Déjà, quand il était fonctionnaire, il avait du mal à convaincre, vu sa saccarure et son teint fleuri et ses muscles, il avait du mal à convaincre ses supérieurs qu'il était vraiment malade et qu'il fallait qu'il aille se reposer.
Puis il y a un exemple familial qui est son frère, hein, qui est mort dans la folie à l'âge de 33 ans. Alors ce qui est terrible, c'est que lui-même, très impressionné par la maladie de son frère, se voit en fait en train de perdre la raison. « Ma pensée, dit-il, fuit comme l'eau d'une écumoire. » Et c'est peut-être ça qui... On a le sentiment vraiment qu'il est harcelé par cette maladie, qu'il écrit très vite, peut-être pour cette raison, je ne sais pas, Nadine Satir.
Je sais pas, cette citation provient vraiment de la fin de sa vie. Il est très lucide à la fin sur la perte de ses facultés intellectuelles. Mais pendant toute sa carrière, peut-être c'est quelque chose qui l'attendrit. Peut-être c'est quelque chose qui, diront certains journalistes, ouvre chez lui une espèce de fontaine de larmes, c'est-à-dire qui transforme cette tendresse pour la créature en pitié, qui aurait pu le mener quelque part ailleurs en littérature s'il avait survécu. Mais je crois que lui-même, par moments, n'était pas certain qu'il allait succomber à cette maladie. À la fin, il disait qu'il n'était même pas certain d'être atteint de la syphilis. Est-ce que les médecins lui ont menti ? Je n'en sais rien, mais... À la fin, par exemple, il était convaincu en passant en train auprès de la Seine qu'il était atteint, disait-il, d'un rhumatisme normand.
Et qu'il soigne ces terribles coups d'éther à la morphine, au hashish. Et puis après une tentative de suicide, il est interné à Passy dans la clinique du docteur Blanche le 7 janvier 1892.
La syphilis tertiaire entraîne cette désorganisation des facultés intellectuelles. Délire, mélancolie, hypochondrie, un cas typique.
Les hallucinations deviennent de plus en plus fréquentes. Est-ce qu'il va guérir ?
Guérir ?
Non ! Je ne pisserai pas. Pas ce soir. Mon urine, c'est de la pierre précieuse. C'est du diamant. Il faut la mettre dans un coffre-fort. Ne me touche pas. Je suis le fils de Dieu. Jésus-Christ a couché avec ma mère. Je suis le fils de Dieu.
juste Dieu.
Oui, ce que l'on vient d'entendre, vous le dites, Nadine Satya, c'est vraiment authentique. C'est qu'il avait imaginé que Dieu, du haut de la tour Eiffel, avait décrété qu'il était son fils. Il voyait des insectes grouiller dans sa chambre en train de lui jeter des jets de morphine. C'est absolument pathétique. Ça a duré 18 mois d'une souffrance terrible les dernières années, les derniers mois de la vie. Il n'écrit plus à ce moment-là de la vie de Maupassant.
Oui, il l'avait senti venir. C'est pour ça qu'il a essayé de se suicider. Il s'est raté, hélas, pour lui. Il sentait qu'il perdait complètement la maîtrise de son esprit. Et il avait vu son frère avoir des accès de violence envers sa femme, etc. Il savait très bien comment ça allait se terminer. Et ça, bon, les détails sur Fils de Dieu, etc., bon, on n'est pas très sûr. En vérité,
vous l'écrivez, hein, c'est pour ça.
Oui, oui, je rapporte le peu qu'on peut savoir par des témoignages. Mais en vérité, il était complètement perdu. Il s'animalisait, rapportait Goncourt dans les salons. Que dire ? C'était complètement pathétique pour un esprit aussi brillant de terminer de cette manière.
Et il meurt donc le 6 juillet 1893. C'est Zola, je crois, qui fait son éloge funèbre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans un milieu où parfois il arrive qu'on se déteste, qu'on se jalouse, c'est qu'il est reconnu comme un très grand écrivain par ses pairs. Dès cette époque-là, il l'était.
Oh oui, absolument. Dès Boule de Suif, il était reconnu par les gens de sa génération. Et 10 ans plus tard, on avait bien compris qu'il était vraiment l'héritier de Flaubert. Ceci dit, le discours funèbre que prononce Zola se termine par un énorme contresens qui aurait sans doute pas surpris Maupassant, puisque Zola termine en parlant de l'amour de la vie chez Maupassant, mais bien sûr que non.
Est-ce qu'il est encore moderne ? Quand je vois le succès de cette série de contes et nouvelles sur France 2, on a l'impression au fond qu'il nous touche encore, comme s'il était intemporel, comme si les passions qu'il décrit, ben, c'était encore les nôtres.
Moderne, je n'en sais rien. Et il me semble que la condition des êtres humains, hommes, femmes, animaux, a tellement changé que, évidemment, ce qu'il a à dire est complètement inscrit dans son époque et pourrait plus s'appliquer aujourd'hui. Maintenant, dans la finesse de description des sentiments, de la déception, dans la relation amoureuse, ce pessimisme par rapport à la politique qu'il avait eu dès la guerre de 70 en voyant la déroute française, là, il y a quelque chose qui reste à méditer.
C'était une émission du 19 mars 2007. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de mon invité, Nadine Satya, auteur de Maupassant, publié aux éditions Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film Guy de Maupassant de Michel Drac avec Claude Brasseur dans le rôle titre, disponible en VHS aux éditions Proserpine, et puis de deux téléfilms, Jean Jaurès, Naissance d'un géant, de Jean-Daniel Verrègue aux éditions Montparnasse, ainsi que Toine de Jacques Santamaria, diffusé sur France 2 en mars dernier. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Ronan Mahé et Cédric Lalanne, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.